Bonjour à tous. Se voir, s'écouter, bienvenue en direct et en public de la Fondation Louis Vuitton. La grande table installée aujourd'hui dans le hall de cette super structure signée Franck Gehry, dans le ventre de ce navire amiral de l'art contemporain. Et pourquoi ? Pour être moderne. Depuis aujourd'hui, le MoMA ouvre ses portes ici à Paris. Les premières acquisitions du musée jusqu'à l'art numérique, Smiley, pour vous offrir, selon les mots du directeur de l'institution new-yorkaise, Glenn Laurie, une nouvelle perspective sur les canons de la modernité. Être moderne, on en parle dans la première partie de l'émission avec un grand nom de l'art contemporain français, le facétieux, le délicieux, l'iconoclaste Bertrand Lavier, et avec un Frenchie passé outre-Atlantique, le commissaire Quentin Bajac, directeur du département photo du MoMA. Puis mettre l'art en mots, ce que le texte apporte à l'œuvre, ce sera avec la sociologue Sally Bone tout à l'heure et avec Suzanne Paget, la directrice artistique de la Fondation Louis Vuitton. Bienvenue.
La grande table. Olivia Jesbert.
Et vous pouvez donc nous suivre ici en direct de la Fondation Louis Vuitton ou sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. Cher Bertrand Lavier, feu arrière d'une voiture sur colonne de grès, une pierre sur frigo, une Giulietta césarisée, un ours en pluche Teddy en art primitif, une bouche rouge sur congélateur Bosch, un panneau routier vantant les paysages aixois, chirurgien de l'art, spécialiste de la greffe, vous hybridez, vous transposez, vous superposez et dites vouloir donner à voir ce qu'on ne voit plus. On vous avait quitté l'an passé en train de battre monnaie à l'hôtel du même nom pour l'exposition Correspondance avec l'ami Hinz, disparu, merci Raymond, par Bertrand Lavier. On a vu votre Vénus d'Amiens au Palais de Tokyo et on vous a vu à la galerie Almin Resch, horticulteur de formation. Vous avez aussi retrouvé sans hasard le Grand Palais pour l'Expo Jardin. Artiste pompidolien par excellence, Beaubourg vous a consacré il y a 5 ans une vaste rétrospective. Bertrand Lavier depuis 69, passé par la Biennale de Venise, celle de Sydney ou encore la Documenta de Cassel, le MoMA aussi vous a exposé. C'était en 84, notamment dans le cadre de l'expo An International Survey of Recent Painting and Sculpture. Voilà, une grande exposition qui réunissait plus d'une centaine d'artistes, parmi lesquels vous étiez. Bonjour Bertrand Lavier.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça a représenté pour vous d'être présenté, exposé un jour au MoMA à New York ?
J'étais très jeune quand c'est arrivé, donc c'était un passage comme ça, un peu miraculeux, parce que j'étais pas du tout préparé à faire, à avoir une présence au musée d'art moderne de New York à l'époque. Et c'était un conservateur qui était très visionnaire, qui s'appelle Kynaston McShine, qui avait fait ce survey sur la peinture, la sculpture de l'époque. Et donc, en fait, il avait été extrêmement perspicace, parce qu'il a exposé une œuvre que je venais pratiquement de faire, qui était un extincteur. Que j'avais repeint. Et ça, c'est une chose qu'on sera sans doute amené à évoquer entre nous, c'est qu'il y a une notion de rapidité, de réaction vive de la part d'un musée, et plus il est réactif, meilleur il est. C'est-à-dire que la fameuse, vous savez, assertion qu'il faut donner du temps au temps, c'est finalement pas une très très bonne recette pour être un musée actif et référent.
À vos côtés, Quentin Bajac, commissaire de l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris, qui s'ouvre aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 5 mars prochain, directeur du département photo du MoMA, de cette institution new-yorkaise. Vous êtes aussi un ancien Quentin Bajac du musée d'Orsay et du centre Pompidou. Alors un Français au MoMA qui fait venir le MoMA à Paris, parti pour, vous revenez avec, vous me suivez? On va essayer de vous suivre, vous en tout cas.
Je vous suis.
Il y a une
c'est
cohérence.
C'est un. Les mouvements transatlantiques ont été nombreux entre la France et les États-Unis depuis le début du XXe siècle. Donc, c'en est un nouveau.
Vous avez pris un aussi beau paquebot que celui-ci ou pas ?
Oui. Ça, c'est vrai que ça a été un exceptionnel par l'ampleur, hein, parce que le MoMA finalement se déploie rarement hors de ses murs. Et il se déploie rarement avec une telle, à mon avis, richesse de discipline.
Mais là, Quentin Bajac, il faut peut-être préciser tout de suite qu'il s'y déploie un peu par la force des choses, parce que le MoMA est en travaux jusqu'en 2019. Il va y avoir une extension, une belle extension dessinée par Jean Nouvel. Déjà immense au cœur de Manhattan, le musée veut repousser les murs pour pouvoir présenter plus, sortir les œuvres du grenier et exposer un peu plus de sa collection. En s'exposant donc à la Fondation Louis Vuitton, on peut dire que le musée joue la carte de l'ouverture permanente.
Oui, je la garde d'ouverture permanente, même si je tiens à le préciser, le MoMA reste ouvert pendant l'exposition. Il y a d'autres œuvres à voir au MoMA, donc nous ne sommes pas du tout fermés. Mais il est vrai que de temps en temps, il est bon de sortir de ses murs. Le MoMA le fait rarement. Le MoMA préfère généralement avoir les visiteurs venir à lui qu'aller aux autres. Donc ici, c'était à mon avis une occasion à la fois pour un public qui connaît pas du tout les collections du MoMA de découvrir des icônes qui n'a pas forcément l'occasion d'aller voir là-bas, et puis une occasion pour des gens qui, à mon avis, connaissent très bien les collections du MoMA d'avoir un certain nombre de surprises, découvertes, puisque nous avons voulu vraiment avoir ce mélange d'œuvres très connues, bien balisées, iconiques, et puis des œuvres moins bien répertoriées.
Est-ce qu'on commence tout de suite, Bertrand Lavier, par la question qui fâche, à l'heure du tout contemporain, et vous êtes un artiste d'art contemporain, qu'est-ce que peut encore signifier être moderne aujourd'hui ?
Alors écoutez, je sais pas, moi je me pose forcément pas la question. Donc, parce que on est de son époque, vous savez, c'est les fameuses phrases de ça. Donc ce que je trouvais, par rapport à ce qu'on évoque sur le musée, ce qui m'intéresse, je suis venu, par exemple, il y a quelques mois ici, voir la collection Tchoukine, qui était une exposition magnifique avec ce qu'on appelle des chefs-d'œuvre. Et celle qui a...
De l'art moderne.
Et alors, je vais m'expliquer sur ce que je veux dire. C'est que quand on voyait l'exposition de Tchoukine, on était en fait les spectateurs du goût de quelqu'un. C'était le goût d'une personnalité avertie, éclairée, etc. Quand on visite une exposition comme celle-ci, on visite non pas le goût, mais une vision. La vision qu'a une institution importante dans le monde sur son époque. Et donc les effets de réverbération sur les œuvres ne sont pas du même ordre. Quand on regarde des œuvres qui sont le reflet d'un goût et le reflet d'une vision, ce n'est pas la même chose. Donc je pense que ça vient planer de manière constante sur la visite qu'on fait dans les salles de la Fondation Vuitton. Et puis il y a aussi un effet, si vous voulez, une mise, j'allais dire, en langage mathématique, c'est une exposition au carré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fondation qui montre un musée, qui montre des œuvres.
Une mise en abîme.
Absolument.
Ce que vous alliez dire. Bertrand Lavier, vous l'avez visité, cette exposition. On va pas vous refaire faire au pas de course le tour de l'exposition, salle par salle, mais vous mettre peut-être quelques instants quand même en position de regardeur et non pas d'artiste. Qu'est-ce que vous avez vu ? Quelle histoire raconte cette exposition dans son ensemble ?
C'est une histoire. Il y a des surprises. Bon, l'histoire. Elle est une histoire balisée avec des bornes bien connues, d'autres moins connues. Et donc, on fait une traversée, je dirais comme ça, du 20e siècle, avec un pied déjà assez autoritaire et bien vu dans le 21e. Il y a des choses que je trouve très piquantes. On voit des artistes, de nouveaux artistes, par exemple American Steel. Et on dit, mais qui est cet artiste ? C'est un artiste qui faisait des roulements à billes. Chromé, magnifique. Et le chromé de ces roulements à billes de 1930 ont une actualité totalement efficace aujourd'hui. Et puis, il y a de véritables ready-made. Alors, quand on pense à ready-made, on pense à la roue de bicyclette sur le tabouret de Marcel Duchamp. Mais en fait, c'est pas du tout ça, les ready-made qui sont montrés. C'est la première fois qu'on montre de manière très radicale une guitare Fender qui, elle, est signée du fabricant. Et là, on est en présence d'un véritable ready-made. Donc, il y a des petits clins d'œil comme ça que je trouve extrêmement pertinent et piquant dans l'exposition.
Oui, l'idée était sans doute de donner une image, on va dire, moins monolithique de la collection. Oui. Montrer que c'est pas seulement ce temple du modernisme, mais que à la fois c'est une collection qui est très très polyphonique, c'est une évidence. D'abord, il y a plusieurs générations de conservateurs qui l'ont constitué. Il y a également énormément de collectionneurs, et quand on lit les cartels, on voit que les apports des dons privés des trustees, collectionneurs et autres qui ont accompagné la collection sont majeurs, sont fondamentaux, d'où la polyphonie. Et puis aussi, c'est une collection qui, en effet, dont les critères de choix obéissent à diverses règles. On a en effet des critères esthétiques, et ça, c'est évident, mais on a aussi des critères culturels. Est-ce que les émojis, est-ce que les jeux vidéo sont des œuvres d'art ? Ce sont sans doute des objets de culture. Et puis, on a aussi presque une dimension anthropologique qui entre dans certains choix. Lorsqu'on a, par exemple, de la photographie vernaculaire, amateur, on est plus finalement dans une dimension presque anthropologique qu'artistique ou esthétique.
Et de la photographie vernaculaire amateur, il y en a au MoMA. On la retrouve dans cette exposition « Être moderne » ici à la Fondation Louis Vuitton. Venons-en justement pour un éclairage à votre spécialité, Quentin Bajac. Vous êtes le cinquième responsable d'un département. La photographie créée en 1940 au MoMA, la collection que vous supervisez se compose de 25 000 tirages, paraît-il. Vous en présentez ici évidemment qu'une toute petite partie, dont la série des Stills de Cindy Sherman, qui appartient à votre département. Une mise en scène d'elle-même, évoquant l'âge d'or hollywoodien, typique de cette génération d'artistes américains, attentives aux stéréotypes de la décennie 70 et aux images de la culture populaire. Quelle autre photo avez-vous choisi de présenter aujourd'hui ici, parmi ces 25 000 tirages que vous avez dans vos tiroirs au MoMA?
Il s'agissait aussi de la sélection d'essayer d'écrire pour chaque département finalement une sorte d'histoire de ses collections et de montrer, comme je le disais, la diversité du type d'objets qu'il collectionne, d'où finalement ce panorama qui va des photographies vernaculaires, donc des images anonymes, sans auteur, à des images de Jeff Wall, de Cindy Sherman. Il était aussi important d'avoir présent cette grande tradition documentaire américaine, Walker Evans, d'une certaine manière Lisette Model, qui a marqué le début de la collection du MoMA, et puis aussi de montrer Weston, Stieglitz, Man Ray, qui dans des directions très 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 diverses, dès les années 20 et 30, définissent la photographie américaine dans toute sa diversité.
Bertrand Lavier, vous vous êtes pas spécialement arrêté Galerie 4, la salle Pop America, vous a pas parlé plus qu'une autre à vous, l'auteur de non pas de série mais de chantier sur les Walt Disney Productions, vos reprises de Frank Stella, tout ça dans les années 80. Est-ce que cette salle qui présente l'art minimal, le pop art américain entre autres, avec cette œuvre de Roy Lichtenstein, La fille qui se noie, n'est pas une période qui a été vraiment un tournant? Vous êtes entré en art à la fin des années 60.
Oui,
donc, avec cette filiation.
Oui, en fait, ça a été peut-être sans doute ma fenêtre pour arriver sur cette planète de l'art. Vraisemblablement, l'époque du pop art et après du minimal sont été effectivement, c'était l'actualité de l'époque, moi, quand j'étais très jeune. Et donc, ça m'a sans doute marqué. Donc, ça m'a tellement marqué que après, j'ai interprété avec des tubes de néon, en faisant un autre type de peinture en tube. Et quand je vois la salle qui est consacrée au pop art, effectivement, il y a des artistes que j'aime bien, mais il y a toujours des absents qu'on regrette, c'est le propre des expositions. Il y a un artiste que j'adore qui est Rauschenberg, et un autre qui est Claes Oldenburg, qui sont aussi des icônes du pop art qu'on aurait pu mettre là. Mais enfin, je vous dis, ça c'est le propre de toutes les expositions, les absents ont toujours...
contemporain, comme on dit. À ses côtés, Quentin Bajac, qui est le commissaire de cette exposition Être moderne. Le son particulier que vous entendez en ce moment, c'est celui du hall de la Fondation Louis Vuitton, où nous sommes en direct et en public sur France Culture jusqu'à 12h30, puis pour une deuxième partie, la deuxième partie de la Grande Table, jusqu'à 13h30. Où commence le récit de l'art moderne? Question que se sont posées la première génération de conservateurs du MoMA, au début du 19e, peut-être avec la Révolution industrielle, un peu plus tard, avec la notion d'avant-garde, ou alors avec l'apparition du cubisme au début du 20e. C'est une question à laquelle répond très indirectement Man Ray. S'il veut bien.
Que reste-t-il de Dada?
Ah, il a marqué toute la suite. Je crois que Dada maintenant est dans le domaine public de la peinture comme... surréalisme aussi, dans le dos. Tous ces mouvements, ça deviendrait une seule chose à la longue, je crois. Quand on regarderait, qu'on regarde maintenant l'exposition Dada qu'on a fait, c'est une chose historique. Ça ne m'intéresse pas du tout, au fond. Ça m'a marqué, évidemment. J'ai fait la peinture, il y a toujours un petit côté anti-peinture dans tout ce que je fais.
Mais aujourd'hui, Dada est rentré dans les musées, si je puis dire. Enfin,
je crois pas.
À votre avis, est-ce que Dada est mort ou est-ce que Dada vit toujours?
Il vit beaucoup parce qu'on l'enseigne dans les universités. Il a des cours de Dada en Amérique maintenant.
Mais est-ce que ce n'est pas sa condamnation même?
Pas du tout. Pourquoi voulez-vous? Quand les peintres s'étaient influencés par le cubisme, est-ce que ça a condamné le cubisme? Pas du tout.
Quentin Bajac, où commence l'art moderne? Où se termine-t-il? Où se termine l'art en mouvement, celui d'aujourd'hui?
Ce que vous évoquiez sur les débuts du récit de l'art moderne avec les interrogations de la première génération des conservateurs et des fondateurs, Il a été résolu au MoMA par des questions très pratiques. Finalement, le Metropolitan, qui était l'autre institution new-yorkaise, collectionnait l'impressionnisme, donc on a commencé au post-impressionnisme. Mais c'est vrai qu'à un moment, Alfred Barr, en tout cas au début de son mandat, Alfred Barr étant le premier directeur du MoMA, envisageait le musée presque comme une collection qui avancerait dans le temps, qui se délesterait petit à petit de ses chefs-d'œuvre. Et jusque dans la fin des années 40, début 50, il était question de céder régulièrement le début de sa collection au Metropolitan. En 53, a été décidé que non, le récit de l'art moderne commencerait au post-impressionniste et que serait donc conservée toute la génération des Signac, Seurat, Van Gogh, Cézanne, qui accueille toujours aujourd'hui le visiteur au cinquième étage du musée. Mais il aurait pu en être autrement, et imaginer que si on avait suivi ce schéma d'Alfred Barr de se concentrer sur les 50 années, dernières années, aujourd'hui, le MoMA commencerait à se dessaisir de ses icônes pop des années 60 et faire finalement commencer le récit de l'art le plus moderne et contemporain à la fin des années 60, début des années 70. Après, Alfred Barr était lui-même assez contradictoire autour de cette notion de moderne. Il disait à la fois, qu'est-ce que le moderne? C'est ce qui est progressiste, c'est ce qui est singulier, c'est ce qui est original. Et à l'époque, il l'oppose au contemporain. Il dit, le contemporain, c'est la valeur sûre, c'est l'académique. Le moderne, c'est ce qui est non pas de son temps, mais légèrement en avance sur son temps. Est-ce que ces valeurs sont aujourd'hui celles que le MoMA défend toujours? Oui, d'une certaine manière. Alors, on peut dire qu'il est d'une certaine manière de plus en plus difficile d'être légèrement en avance sur son temps. Mais néanmoins, je dirais que ces valeurs sont toujours celles que les conservateurs s'efforcent de retrouver dans les œuvres des artistes, ces valeurs de rupture et d'originalité, de singularité. Donc, d'une certaine manière, ce qui a marqué l'avant-garde n'a pas véritablement évolué.
Bertrand Lavier, on peut être en avance sur son temps sans pour autant faire table rase du passé. C'est ce que vous avez toujours estimé d'une certaine manière. Mmh. L'histoire de l'art, elle est présente dans votre œuvre. Comment faire de l'art après Marcel Duchamp? Vous avez interprété cette question aussi à votre manière, avec vos Ready Destroyed comme Giulietta, qui ont remplacé les Ready Made de Duchamp. Mais au-delà de ça, vous avez dit, c'est avec l'art de mon temps que j'ai pu remonter l'histoire. En quoi toute cette... toute votre œuvre constitue aussi une réflexion sur la modernité ou ce qu'on appelle le modernisme?
Alors effectivement, je ne fais pas table rase, j'ai plutôt tendance à dire que je monte sur la table. Et quand on fait référence, vous aviez raison de dire tout à l'heure dans la salle du pop ou du minimal, c'était une fenêtre sur laquelle j'étais content qu'elle s'ouvre pour moi, mais la fenêtre de Van Gogh, qui n'est plus moderne, mais qui quelquefois l'est, ça dépend à quel moment on met le curseur, c'était Van Gogh était aussi important pour moi que Frank Stella, je dirais. Si je voulais copier la phrase de Kooning, je pourrais dire que j'ai beaucoup influencé Van Gogh. En réalité, ces allers-retours ont lieu en permanence. Je crois qu'en fait, l'art, sur un certain plan également, est une conversation que les artistes ont entre eux de manière fictive ou quelquefois réelle. Et je pense que c'est ce bouillonnement qui fait que la modernité est toujours en mouvement et que finalement, moi, quand je revisite ou quand je vais, comme disait le poète, je vais de Mallarmé à Villon, c'est quand même une façon de pouvoir arpenter finalement un certain nombre d'aventures qu'on a qualifiées d'avant-garde. Ça, c'est un sujet peut-être qu'on aura à évoquer, parce que l'avant-garde et le moderniste aujourd'hui, ce sont des variables qui sont assez problématiques.
Ne tapez pas sur ma table, elle est fragile. Non. Vous pouvez monter sur les tables, mais pas taper dessus, Bertrand Lavier. Quand vous jouez aussi avec des catégories artistiques dans votre œuvre, quand vous jouez avec cette carte de la pluridisciplinarité, que vous mêlez la peinture avec la sculpture, avec cette volonté, comme vous l'avez dit un jour, de faire trembler les catégories classiques de la modernité, est-ce que vous faites aussi, du même coup, trembler les murs du MoMA, de cette institution, de ce gardien de l'histoire de l'art et de la modernité? Est-ce que vous redéfinissez les murs dans les musées?
Pas cette prétention que d'aller faire trembler les murs du MoMA. Même si j'en avais la force, je pense que j'éviterais de le faire pour des tas de raisons. Mais
c'est Quentin Bajac. Ouais. Le MoMA est un temple de la modernité. Est-ce qu'on peut éternellement faire bouger les lignes aussi?
Oui, évidemment, le MoMA est un temple de la modernité, mais c'est un temple qui n'a cessé finalement de s'interroger, hein, et c'est d'une certaine manière, j'espère, ce qui ressort de l'exposition, c'est qu'il n'a cessé à la fois d'étendre ses champs de collection, de ce qui définit un objet d'art ou un objet susceptible d'être collectionné, ne serait-ce qu'en suivant les évolutions technologiques, ça va de soi. Aujourd'hui, les jeux vidéo, les émojis que chacun utilise sur Internet...
Mais Quentin Bajac, je peux, pardon, retourner la question. Comment le MoMA, ou quel rôle une institution comme le MoMA peut jouer aussi dans la création pour les artistes?
Le MoMA a toujours, de façon, je dirais, accompagné, non pas par des commandes. Le MoMA s'est toujours gardé à l'écart des commandes qui étaient pour lui trop directives. On est quand même dans un état d'esprit, une mentalité américaine. Donc on accompagne le marché, mais on n'est pas, je dirais, dans quelque chose de régalien qui se ferait par des commandes étatiques. Le MoMA est une institution entièrement privée, je le rappelle. Elle a accompagné les artistes par la constitution de collections, d'achats, des expositions, comme et en étant un laboratoire et un lieu d'accueil. C'est très évident dans les années 30, où elle a servi vraiment de lieu d'accueil et pour tous les artistes, notamment européens, qui pour certains ont quitté les États-Unis grâce à l'appui du MoMA, qui les a fait venir. Et Alfred Barr a été très actif dans cette entreprise. Et elle continue, bien évidemment, à les aider, à les soutenir par des acquisitions, des expositions, comme toute institution, et en se gardant, je dirais, en restant à l'écart et en se gardant de toute intrusion trop forte.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Déjà midi 24 sur France Culture en direct de la Fondation Louis Vuitton à Paris dans le cadre de l'exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. Être moderne, le MoMA à Paris. Au début du MoMA, des artistes américains reprochaient à sa direction son tropisme européen et son manque de soutien pour la scène intérieure américaine, notamment les peintres abstraits. Après, il y a eu cette espèce de parti pris plutôt occidental de l'institution. Les collections du musée ont regroupé tous les grands chefs-d'œuvre du modernisme occidental, européen et américain. Le MoMA semble aujourd'hui décidé, et là on se tourne vers l'avenir, à ouvrir ses collections à d'autres continents. Quelle va être la politique d'acquisition menée dans le cadre de cette ouverture géographique, ouverture culturelle aussi, Quentin Bajac?
C'est vrai que toutes les institutions aujourd'hui se tournent bien au-delà de l'Amérique et de l'Europe, que le MoMA le fait, comme d'autres, en créant des groupes de recherche, pas forcément d'ailleurs liés à des acquisitions, mais parfois à des projets d'exposition autour de l'Europe de l'Est, de l'Asie, Asie du Sud-Est, Inde, aujourd'hui Afrique et Amérique latine, qui a toujours été d'ailleurs depuis les années 40 une des priorités du MoMA. Donc, à l'exemple de d'autres institutions. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs conceptions et plusieurs conceptions de la modernité, même au MoMA, une conception très européenne et très pluridisciplinaire qui était celle d'Alfred Barr au début dans les années 30-40. Une conception plus américaine et très centrée sur les États-Unis qui est arrivée après dans les années 50, 60, 70 et qui était une modernité plus greenbergienne qui insistait sur la spécificité de chaque médium. Aujourd'hui, c'est une modernité plus éclatée et qui, en effet, entend s'ouvrir à la fois, bien évidemment, au monde, mais également aussi à des communautés américaines, africaine-américaine, noir-américain, davantage d'accent porté sur les femmes aussi, de manière très volontariste et très affirmée et très revendiquée, qui est en effet un des aspects de la politique aujourd'hui d'acquisition et d'exposition du MoMA.
Oui, d'autant plus revendiqué que ce décloisonnement est mis en scène aussi ici dans cette exposition avec une salle intitulée « Le MoMA s'ouvre au monde ». Alors on y trouve des œuvres d'artistes non occidentaux, mais aussi, étonnamment peut-être, à moins que je me sois trompée, mais dans cette salle, celle de Kerry James Marshall, une œuvre d'un Américain, dans une salle intitulée « Le MoMA s'ouvre au monde ». Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que l'idée était en effet de montrer que le MoMA s'ouvrait à, je dirais, à d'autres perceptions que la perception traditionnelle. On a reproché dans les années, à la fin des années 60, 70, au MoMA, de ne pas faire suffisamment de place aux artistes African-American. À l'époque, le MoMA, on a acheté un peu dans les années 70, et puis c'est vrai que c'est retombé. On espère aujourd'hui que la direction que le cap sera maintenu. Mais par ailleurs, l'ouverture à d'autres continents...
C'est une toile qui montre, et j'ai oublié de préciser, pardon, hein, Quentin Bajac, c'est une toile qui évoque la représentation hein, des Afro-Américains dans la société américaine aujourd'hui et qui montre comment ils sont souvent placés dans une situation rattachée, identifiée à la question du divertissement ou du sport ou du spectacle, la chanson, etc. Donc ça questionne aussi la place des Afro-Américains dans la société américaine. Et poursuivez, pardon.
Par ailleurs, c'est vrai que la salle comporte aussi donc Asli Savusoglu et Imanissa, qui sont respectivement égyptiennes et turques, que l'étage comporte un artiste slovaque, Roman Ondak, qui est mise en majesté, une autre artiste qui n'est pas américaine, même si elle est nord-américaine, qui est Janet Cardiff, qui a une pièce très monumentale qui clôt le parcours. Que par ailleurs, nous avons dans la salle adjacente des œuvres d'artistes et de compagnies japonaises, donc d'un artiste thaïlandais qui est Rikrit Tiravanija. Donc il y a, en effet, par-delà cette seule salle, une ouverture au monde qui s'effectue.
Bertrand Lavier, est-ce qu'un musée peut ou doit tout brasser? Est-ce qu'un musée n'a pas, a priori, une finalité, des limites chronologiques, géographiques à se fixer pour vous, pour ces acquisitions?
C'est une question très très compliquée, parce que ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début de notre entretien, la notion de goût et la notion de vision de l'époque. Si vous exposez votre goût, vous pouvez faire l'économie d'une vision exhaustive de l'époque, et on sait qu'on ne peut pas tout montrer. Mais redonnons un petit peu de lumière sur Paris, parce que c'est le MoMA à Paris, c'est ça, être moderne à Paris. Le curseur a été changé en 1977 quand le Centre Pompidou est arrivé. On a eu une révolution dans ce qu'était un musée. Et là, quand on parle de pluridisciplinarité, le Centre Pompidou a donné le « là », si je puis dire, à cette époque-là, et ça a été une déflagration dans le monde des musées. Ça s'est passé ici. Et une autre chose aussi qui correspond à ce qu'on évoque aussi avec l'ouverture au monde, c'est cette grande exposition qui a eu lieu aussi à Paris, qui s'appelait « Les magiciens de la Terre », qui a été aussi une sorte de déflagration où il y avait une ouverture non seulement au monde, mais aux pratiques artistiques. Et je crois que ça a beaucoup conditionné les comportements de certains nombres de directeurs et de conservateurs de musées.
Bertrand Lavier, un catalogue d'exposition, un livre ouvert à vous tout seul. Vous êtes tout désigné pour rester avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On va parler des mots et des œuvres. Comment mettre l'art en discours, ou est-ce le discours qui produit l'œuvre? On va en reparler avec deux autres invités qui vont nous rejoindre en lieu et place donc de Quentin Bajac. C'est Suzanne Paget, la directrice artistique de la Fondation Vuitton, qui va nous rejoindre à partir de 12h55, et la sociologue Sally Bone. Elle signe un livre au seuil, Les mots et les œuvres. Elle sera avec nous pour ouvrir cette réflexion dans une vingtaine de minutes. Merci beaucoup à vous, Quentin Bajac. Merci à vous. Restez avec nous, Bertrand Lavier.